Un grand merci, Eric.
Merci, monsieur l'abbé.
Je me tourne vers Winfried qui nous a rejoint et qui, en ce début de carême, traditionnellement vient nous parler de son pèlerinage à Argenteuil. Mais avant, s'il y a des rendez-vous, je crois que Guylaine Lacoste a rendez-vous.
Oui, alors, en plus du colloque sur l'histoire qui aura donc lieu à l'Institut universitaire le samedi 10 mars, Quel regard sur l'histoire de 14h à 19h, avec la participation du professeur Jean de Vigry, sachez qu'il y a également une conférence qui sera donnée par le professeur Jean de Vigry le lundi 12 mars à 19h30 à l'Institut sur les nouvelles pédagogies. Donc, lundi 12 mars, 19h30, Jean de Vigry sur les nouvelles pédagogies, 21 rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement, 01 42 22 00 26. Alors, l'entrée à ces conférences du lundi est de 6 euros pour les étudiants. Non, pardon, de 6 euros et 3 euros pour les étudiants. Et l'entrée pour le colloque est de 8 euros et de 5 euros pour les étudiants. Et sachez que le nombre de places est limité pour ce colloque, donc il faut appeler pour s'inscrire.
Le samedi 10 mars, le Chœur Frangélico fête ses 30 ans et donne un concert spirituel à la basilique Sainte-Clotilde, 23 bis rue Lascaz, dans le 7e arrondissement. Ce concert a lieu donc le 10 mars à 20h30 et au programme Franck, Reinberger. Je vais d'ailleurs demander à un Allemand de me le prononcer, puisque Winfried, vous pouvez me dire comment on prononce ce nom de votre compatriote.
Ah oui, ouais. Pour Reinberger.
Ça. Alors j'avais bien prononcé, voilà. Exactement. Et puis, donc le Stabat Mater, Ave Regina Celorum, Dextera Domini, d'après l'Adagio d'Albidoni, les Béatitudes. Donc tout cela le 10 mars, 20h30, Sainte-Clotilde, 23 bis rue Lascaz, Paris 7e, libre participation aux frais. Winfried Duvermeuling, c'est comme je le disais, notre rendez-vous traditionnel, puisque vous organisez chaque année, au moment de la Passion, ce pèlerinage à Argenteuil, où se trouve la relique de la Sainte Unique d'Argenteuil. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous donner le lieu de rendez-vous, la date, et on la répétera en cours d'émission?
Oui, alors ça sera cette année, le 18 mars, pour le pèlerinage annuel à la Sainte Unique d'Argenteuil. Ça change chaque année un peu en fonction des disponibilités de la basilique d'Argenteuil, avec laquelle il faut s'arranger, ne, pour la date. Donc cette année, ça tombe sur le dimanche qui est à 3 semaines avant Pâques. Bien. Donc une semaine avant le début de la Passion.
Oui.
Donc c'est vraiment une très belle entrée dans la Passion. Ça fait la 7e fois que nous faisons donc ce pèlerinage annuel, chaque fois entre 300 et 400 personnes. Mais c'est pas un pèlerinage glorieux, triomphateur. C'est un pèlerinage vraiment humble. Je crois que tout le monde vient dans cet esprit à Argenteuil et on cherche même pas le nombre. Pour faire cet hommage à la tunique du Christ, toute trempée de sang, comme les dernières études scientifiques l'ont prouvé, et de sang humain, et de sang très ancien,
mais
et de sang d'un homme qui a souffert.
C'est un pèlerinage très recueilli, ça n'est pas une manifestation. Ouais. C'est vraiment une procession dans les rues d'Argenteuil jusqu'à la basilique. Mais vous réunissez beaucoup de monde. Je sais qu'il y a en face de vous une pèlerine d'Argenteuil. Guylaine s'y est rendue.
Et c'est vrai, la basilique était pleine, bondée. Hein.
Oui, c'est vrai. Le corps de l'église, la nef principale, est vraiment rempli chaque fois. Mais il y a quand même encore de la place sur les côtés. Il ne faut pas se gêner pour cela. Il est vrai que le pèlerinage traverse toute la ville, comme dans l'ancien temps. On monte donc des bords de la Seine vers la gare. Ça, c'est pour des raisons pratiques. Comme ça, les gens qui viennent de la gare Saint-Lazare à Paris peuvent directement rejoindre notre pèlerinage à 15h30. Mais le pèlerinage commence déjà à 15h au bord de la Seine. Au parking, je vous donne la référence, c'est le parking 9 boulevard Héloïse à Argenteuil. C'est le grand parking de la fête, de salle des fêtes. Donc nous passons devant la gare et puis la grande route ancienne, toute droite à travers tout Argenteuil jusqu'à la basilique, pratiquement de l'est vers l'ouest, hein, tout droit. Et chaque fois, c'est étonnant, c'est une ville quand même à majorité d'immigrés, il y a un respect énorme. On n'a jamais eu la moindre difficulté pendant cette procession, même si on a un service d'ordre, hein, mais tout le monde est absolument même recueilli. Il y a des gens qui nous joignent. Il y avait même une fois un groupe de musulmans qui voulaient nous joindre. C'était un grand gaillard qui nous demandait, qui avait 3-4 femmes derrière lui, voilées, et voulait se joindre. Et notre président a dit, oh, c'est très gentil de votre part, mais peut-être chacun sa procession. Donc ça s'est un peu réservé comme ça. Mais juste pour vous montrer, les musulmans, ils ont un grand respect quand on soit dit pour eux, hein, défend Dieu. Lui, il nous l'a dit ça comme ça. Nous avons un très grand respect que ceux qui défendent Dieu. Bon, là, on risque rien. Alors, à la basilique, nous rentrons et nous pouvons dire tranquillement là-bas le grand chemin de croix autour de tous les piliers de l'église avec l'ancien chemin de croix. Et puis, terminé avec la vénération, avec des très anciennes prières qu'on a retrouvées et des chants aussi devant la Sainte Tunique elle-même. Elle se cache un peu à droite au fond du chœur et ça a été construit comme ça, exprès. Elle reste humble même dans son apparence aujourd'hui. Elle se cache à droite derrière d'ailleurs l'autel de la Sainte Vierge qui est à côté, qui elle s'appelle Notre-Dame de l'Humilité. Vous voyez, c'est toute une religiosité derrière ces deux aspects. Et ce qui est extraordinaire avec notre Sainte Tunique, c'est qu'on peut la voir. Entre les grandes reliques de notre Seigneur qu'on a en toute l'Europe, on n'en peut voir aucune, sauf quand il y a les ostensions officielles. À Turin, tout le monde connaît, mais pareil, à Trèves, à Oviedo, à Bruges, en Belgique, à Prüm, on ne peut pas voir les reliques. Mais à Argenteuil, on peut laisser reposer son regard sur, disons, le reliquaire qui est sur l'autel et qui laisse une fenêtre ouverte. Où l'on voit enrouler la Sainte Tunique, qui, elle, est trempée de sang. Et ça, se voit pas comme ça, hein. C'est tout noir maintenant, mais elle tient encore sur un cintre. Quand il y a les grandes ostensions, tous les 50 ans, la prochaine, théoriquement, 1934, elle est présentée, naturellement, sur une toile d'Hollande.
Vous voulez dire 2034 peut-être, oui. Parce que nous sommes en 2012, donc la prochaine
2034,
aura lieu.
Voilà, exact, c'est bien ce que nous pensons. 2034, voilà. Donc ça ferait 50 ans. Et elle est donc exposée sur une espèce de mannequin qui est exposé aussi en permanence à gauche, dans une chapelle à gauche, une magnifique reliquaire aussi pour tenir pendant les ostensions la Sainte Tunique. Alors, la Sainte Tunique, nous, on a fait un groupe qui s'appelle Costa depuis 1995 et on a fait d'abord toute la littérature qui existait. Il reste quand même pas mal de traces à travers toute l'histoire qu'il fallait réétudier à fond, résumer, faire des conférences et redécouvrir toute cette richesse qui était présente par écrit.
Est-ce que vous voulez dire, c'est ça, que vous ne vous contentez pas de vénérer, mais vous voulez aussi la faire connaître. Et donc, pour la faire connaître, il faut l'étudier. Et là, vous convoquez, parce que dans ce groupe, il y a des scientifiques, qui viennent étudier, comme on a étudié le Saint-Suaire, on étudie la Sainte Tunique d'Argenteuil, parce que la foi n'a pas peur de la science.
C'est vrai, la foi devrait être liée à la vénération, parce que sinon elle est sans but, et ça, la foi elle peut tourner en rond.
Vous voulez dire la science, peut-être.
Oui, sans la vénération, oui. C'est ça, c'est comme la charité, la foi sans la charité. Et les scientifiques qui font les conférences chez nous, qui se disent parfois athées, mais croyant déjà dans l'authenticité de la relique, qui est pour moi un véritable chemin pour eux, que le bon Dieu leur a peut-être prévu, eh bien, ils viennent le lendemain à notre procession, plie la jambe au chemin de croix. On a vu cela. Et nos colloques sont toujours samedi-dimanche. Samedi, c'est le colloque, et dimanche, c'est la procession.
Donc, on peut dire que juste avant votre réunion, juste avant la vénération qui aura lieu, donc, je répète, le 18 mars 2012 à Argenteuil, on répétera tout à l'heure les lieux du rendez-vous, l'heure exacte. Mais vous avez, juste avant, un colloque. Vous réunissez pour étudier.
Ah, l'an dernier, ça. Les colloques, on ne les fait pas tous les ans. Hein. La procession, elle est toutes les années. Mais le colloque, on le fait tous les 4-5 ans à peu près. Le dernier grand colloque était effectivement l'an dernier. C'était la Sainte Tunique et les autres reliques du Christ. Le colloque avant, c'était la Sainte Tunique devant la science. Un très intéressant colloque aussi. Et on planifie actuellement le prochain colloque très rapproché, c'est l'année prochaine, mais à Prüm, en Allemagne. Donc un colloque franco-allemand entre Costa et nos amis en Allemagne sur les reliques du Christ. Mm-hmm. Et le thème général s'appelle « L'Europe chrétienne bâtie sur les reliques du Christ ». Et c'est une merveille d'étudier ça. Il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la France. Vous avez Maastricht. Vous avez l'origine de même l'Europe actuelle, tout par hasard. Et c'est l'Europe de Charlemagne. Mais personne ne veut se rappeler de ces magnifiques choses qui sont peut-être la substance même qui tient cette Europe ensemble dont personne ne veut vraiment parler.
Donc, avant de parler de ce colloque donc, qui interviendra en 2013, est-ce que vous pouvez nous dire si on n'a pas pu assister au colloque de l'an dernier, de 2011, est-ce que on peut se procurer des actes? Est-ce que vous publierez les résultats, les conclusions des scientifiques que vous aviez réunis?
Oui, alors il faut que je l'avoue devant le libraire. Nous avons prévu la sortie pratiquement dans 2 semaines de ces actes, et tout autocomposé, parce qu'on n'a pas les moyens immenses. Donc, on a fait page par page nous-mêmes, et ça sera édité à Berlin, en auto-édition à un prix assez intéressant pour un livre de grand format en 280 pages, dont 200 en couleur de cette qualité-là. Donc, ça sera un magnifique livre qui coûtera une fortune si l'on veut le sortir officiellement, mais en auto-édition, et on pourra le présenter à officiellement 33 €, mais nous, par Costa, par Radio Courtoisie, on peut le proposer pour 25 €, alors, exceptionnellement.
Est-ce que vous pouvez dire justement, donnez-nous l'adresse de Costa, si je veux me procurer les actes, donc ils vont sortir dans 15 jours, je peux dès maintenant souscrire, et alors, vous me l'enverrez dans 3 semaines, et où est-ce que c'est? Et où est-ce que j'écris?
Alors, le livre s'appelle « Actes du colloque, la Sainte Tunique et les autres reliques du Christ ». Hein? Actes.
Voilà,
tout
très
court.
Bien.
Actes. Il paraît officiellement chez nous, Costa, auto-édition. Hein? Alors, il faut écrire boîte postale 70 114,
Boîte postale 70 014 95 210
Saint-Gratien.
Alors, vous allez nous le répéter, si vous voulez bien.
Et si vous voulez profiter de ce prix de lancement de 25 euros...
Il faut commander tout de suite.
Voilà.
Exactement, c'est le prix en souscription.
Nous avons déjà pas mal de
alors, je vais donner vos coordonnées. Costa, c'est boîte postale 70 114. Et à Saint-Gratien, le code postal de Saint-Gratien, c'est 95 210 Saint-Gratien. On peut aussi téléphoner ou envoyer une télécopie au 01 34 12 02 68. 01 34 12 02 68. Et il y a une adresse internet, UNEC, en un seul mot, @wanadoo.fr. Donc cela, c'est le passé, si j'ose dire, mais très important. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y aura des communications de plusieurs scientifiques, pouvez-vous nous donner quelques noms de des scientifiques qui sont là? Je vois que quelqu'un qui est bien connu à Radio Courtoisie, en particulier le docteur Dor.
Oui, il y avait vraiment des conférences passionnantes qui seront donc éternisées dans ce livre, là, disponible pour toujours. Mais il y a aussi des présentations presque contemplantes, avec beaucoup d'images, par exemple toute l'histoire de la Sainte Tunique ou toute l'histoire des sandales du Christ. Tout simplement présenté par une très belle série de photos que nous avons faites nous-mêmes et collectées nous-mêmes, de façon à pouvoir vraiment contempler ces choses-là. Les reliques, c'est pas une chose comme les autres, hein? C'est pas un sujet comme un autre, donc même ça montre déjà une certaine attitude autre que la pure curiosité. Alors entre eux, il y avait le professeur Fanti, par exemple, l'an dernier, avec sa grande conférence sur la face cachée du sanctuaire de Turin. Et vous savez bien qu'on a trouvé, que des chercheurs ont trouvé une deuxième image de la Sainte Face juste à l'arrière de l'étoffe. Ce qui était possible quand la toile d'Hollande avait été enlevée, ils en ont profité pour numériser cette face-là, et ces chercheurs-là ont analysé par des procédés très spéciaux quand même, hein, ça se voit pas à l'œil nu, mais une image très impressionnante dont nous donnons les images dans notre livre. Alors, lui, c'est un croyant, hein, monsieur professeur Fanti, Giulio Fanti. Et pour lui, ça va jusqu'à la résurrection, c'est un signe de la résurrection. Il dit comment un rayon peut donner une impression aussi bien devant que derrière un textile s'il n'est pas passé par le textile. Parce qu'à l'intérieur du textile, il n'y a aucune trace. Alors, ils ont fait naturellement des efforts pour comprendre, même électriquement, par des charges couronne, effet couronne, etc., et fait des efforts, des essais dans ce sens. Mais les conditions de ces tests sont telles qu'il faudrait des dizaines de milliers de kilowatts à une décharge de nanosecondes seulement, de millionième de seconde, pour que tout soit pas brûlé, pour obtenir ce double effet en même temps des deux côtés, qui pour lui n'est explicable que par la foi, etc. L'éclat de la résurrection, peut-être. Mais le fait est là. C'était vraiment une conférence passionnante. L'autre, c'était les sandales du Christ du professeur Lucotte. Alors ça, c'est une affaire, on est allé là il y a deux ans pour voir qu'est-ce que c'est. Et je crois, on a déjà parlé l'an dernier un petit peu, les sandales du Christ aussi, c'est une magnifique relique.
Elle se trouve en Allemagne.
À Brume, tout près de Luxembourg. mais du côté Allemagne, vous voyez, juste tout près de la France aussi.
Et elles y sont depuis combien de temps? On sait que les reliques sont déposées là depuis...
Ah oui, depuis le pape Zacharie, Pépin III, le père de Charlemagne, qui lui avait bien protégé le Vatican, vous vous rappelez ça? Enfin, le Vatican, c'est une manière de dire, qui avait protégé le pape contre les Lombards, contre l'islam déjà, mais aussi contre les Byzantins, qui ne jouaient plus tellement le partenariat avec Rome à l'époque. Et il cherchait un nouveau protecteur. Il était vraiment envahi. Et c'est là que, déjà, Charles Martel avait promis son aide, et finalement, c'est le père de Charlemagne, Pépin, qui a porté secours et qui a défendu le pape et qui lui a remis certains grands domaines en France. Et on dit que c'est grâce à ça qu'en signe de reconnaissance qu'il a pris la plus précieuse relique qu'il avait sous la main, disons, pour ainsi dire, c'était les sandales du Christ. D'ailleurs, déjà dans un reliquaire, c'est-à-dire une sorte de chaussure d'apparat papale du style mérovingien, qui se trouve aujourd'hui encore sur l'extérieur de la sandale. On ne voit pas un bout de cuir, on voit quelque chose comme une sandale décomposée en deux parties, hein? La moitié et la moitié.
Et en Allemagne, à Prüm, c'est l'objet d'une vénération depuis
les origines. Oui, depuis ce temps-là, oui. Avec une magnifique basilique qui s'appelle Salvatorkirche, l'église de Saint-Sauveur. Ça vient toujours de Charlemagne. Les Saint-Sauveurs, c'est Charlemagne. Et lui, il appelait tous Saint-Sauveurs qui avaient relation au Christ, directement. Ça, c'est les Herrenreliquien, les reliques seigneuriales, hein, seigneuriales, et elle s'appelle aujourd'hui encore Salvator Basilica, et elle est impressionnante. Dans un petit patelin de 5000 habitants, il y a soudainement une basilique, mais trois fois celle d'Argenteuil, il faut voir, et puis dans l'ancien style, avec un grand collège baroque à côté, c'était l'ancienne abbaye bénédictine qui protégeait les sandales du Christ. Alors, il faut dire qu'en Allemagne, cette relique, elle est en concurrence avec Trèves à côté. Et Trèves, c'est la Sainte Robe. Et Trèves, c'est le Kurfürst, hein, le prince électeur. Il a le bras un peu plus long que les petits princes de Prüm. Et finalement, ils ont même avalé tout Prüm au XVIe siècle. Et depuis, on n'en parle presque plus.
Alors, disons aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent Winfried Würmeling, le plus français des Allemands que je connaisse, tellement français qu'il a épousé une Française, et que cette Française porte le prénom de la patronne de Paris. Je salue Geneviève en passant. Eh bien, vous êtes sur Radio Courtoisie, nous parlons de ce pèlerinage à Sainte-Unique. Il nous reste quelques minutes, on va redire encore où on peut se donner rendez-vous, parce que je crois que Guylaine a ensuite quelques annonces à faire. Le rendez-vous, Guylaine?
Donc à 15h, départ donc à Argenteuil, au parking qui se trouve 9 boulevard Héloïse. Ensuite, la procession passe à la gare d'Argenteuil à 15h30. Ainsi, ceux qui auront pris le train à Saint-Lazare pourront rejoindre cette procession en descendant à la gare d'Argenteuil. Et rendez-vous à 16h à la basilique pour le chemin de croix qui sera donc dit et médité à l'intérieur de la basilique. Avec, pour terminer le chemin de croix, une station devant la Sainte Tunique.
Et si vous voulez des renseignements complémentaires, eh bien vous n'hésitez pas à téléphoner au 01 34 12 02 68. Et puis, vous avez l'adresse électronique unec@wanadoo.fr.